en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, Monsieur le Président, permettez-moi de m'associer à l'hommage qui a été rendu à Niki Houlandris, que j'avais rencontré à Athènes plusieurs fois. Je m'associe donc à cet hommage. Je voudrais vous remercier surtout de m'avoir invité à participer à ce cycle sur l'action extérieure de la France qui occupe les conférences annuelles de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, comme nous en avons convenu, le sujet porte sur la défense européenne, sujet ingrat. Mon éditeur un jour m'avait dit, vous savez, il y a deux sujets qui n'intéressent personne. L'Europe et la défense. Si vous voulez faire fuir votre lecteur, persévérez. Alors j'avais au départ pris ça évidemment pour un encouragement. Aujourd'hui c'est devenu une consolation, mais je fais avec. C'est peut-être sans doute mon inconscient en parlant trop fort pourquoi j'avais choisi ce titre. En réalité, en ayant quand même plutôt à l'esprit la passe très difficile dans laquelle se trouve l'Union européenne, à 40 jours du Brexit, affaiblie, divisée, devant faire face à des échéances électorales compliquées. Et cette division, évidemment, si elle se poursuit, à coup sûr, elle fera des Européens les grands perdants du XXIe siècle. Autant unis, on peut penser qu'ils peuvent plus sereinement relever toute une série de défis, et notamment des défis de sécurité, résister plus fermement dans l'adversité. Autant on pense qu'ensemble, ils rétablissent un équilibre qui est aujourd'hui défavorable par rapport à un certain nombre d'États-continents ou d'entreprises mondiales, autant divisés, évidemment, ils s'exposent. Ce rapport de force, si on le rappelle, c'est une formule de Michel Barnier qui, dans ses conférences, et ça fait image, donc je le reprends, signale qu'en 1988, 4 des 7 puissances les plus riches au monde étaient européennes. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 3, et dans 30 ans, probablement aucune, peut-être l'Allemagne, mais sans certitude. En revanche, il est évident que l'Union européenne, économiquement, fait jeu égal avec les États-Unis, fait jeu égal avec la Chine, et continuera de le faire. Pour revenir sur notre sujet, et je me suis permis de diffuser quelques graphiques, d'un point de vue militaire, l'Union européenne, collectivement, a un budget relativement conséquent, 240 milliards d'euros par an, c'est-à-dire un budget supérieur à celui de la Chine. Bah, évidemment, l'Allemagne ou la France prise isolément ne compte que pour le cinquième de ce budget. Surtout, dans l'organisation des défenses européennes, l'absence de rationalisation fait que nous multiplions les équipements, 180 systèmes de combat en Europe contre une trentaine, beaucoup plus performants aux États-Unis, 17 modèles de chars de combat contre un seul outre-Atlantique, 6 programmes de frégates en cours de réalisation ou en service dans les flottes. Donc nous dépensons finalement beaucoup et mal, à plus de 1,5 million soldats sous les drapeaux, alors que l'Union européenne, dans ses opérations extérieures, M. Mazot les évoquait la fois dernière, n'a jamais déployé plus de 5 000 hommes. Et donc, on voit bien combien cette division nous atteint, cette division nous affecte et nous relativise. Alors, un certain nombre d'initiatives récentes, elles sont aussi récapitulées dans le deuxième pavé de ce graphe, montrent qu'entre 2016 et 2018, toute une série d'efforts de relance ont été faits, qui sont des efforts vertueux. Je pense à la mise en place d'un fonds européen de défense, je pense au lancement de la coopération structurée permanente, à l'initiative européenne de défense, à des accords franco-allemands pour encourager la production d'un nouvel avion de combat du futur ou un char du futur. Mais comment être sûr que cet élan ne retombe pas? Et dans le passé déjà, nous avons connu des élans et des poussées au moins aussi importantes, et la dynamique s'est brisée. Bien sûr, la première poussée initiale de Maastricht, qui a contribué à faire inscrire dans les traités de l'Union européenne la défense commune comme un objectif en soi, la création à l'époque des Eurocorps. La seconde poussée, derrière notamment l'accord franco-britannique de Saint-Malo en 1998, qui a conduit à établir des institutions, à mettre sur place, sur pied, envisager de pouvoir mettre sur pied des forces autonomes de 60 000 hommes. Et puis la troisième poussée, qui est celle de 2009 autour du traité de Lisbonne. Or, à chaque fois, l'élan s'est brisé. Il y a eu une multiplication de projets, je dirais à la fois un trop-plein et un trop-peu. Le caractère hétérogène des logiques qui étaient poursuivies, soit à l'intérieur de l'Union européenne, soit au sein de l'OTAN, soit par des accords intergouvernementaux, ont enrayé la plupart de ces dynamiques. Alors on peut penser bien sûr que cette fois-ci, les choses étant suffisamment graves, les circonstances parleront d'elles-mêmes. On peut penser, et c'est vrai, qu'il y a un facteur nouveau dans cette relance, c'est que pour une fois il y a de l'argent. La mise en place du Fonds européen de défense va mobiliser sur les capacités militaires ou sur la recherche de défense à peu près 13 milliards d'euros entre 2021 et 2027, ce qui n'est pas une somme mince, pas une somme modeste par rapport à l'effort de la plupart des pays européens. Et donc l'argent qui jusqu'ici était un verrou, faisait défaut, devient désormais un facilitateur. D'autant qu'il va y avoir un effet démultiplicateur par la mobilisation d'autres crédits sur d'autres politiques conjointes. Je pense à l'espace, je pense au cyber, je pense à la mobilité militaire. Mais on aurait tort de croire là encore que ce seul facteur se suffirait à lui-même pour faire progresser la défense de l'Europe. La réussite de la défense européenne, elle suppose en réalité de briser un cercle d'inhibition des Européens. Un cercle dans lequel les Européens s'enferment face à l'adversité. Un cercle qui les rend otages de leurs querelles politiques et victimes des illusions derrière lesquelles ils se sont retranchés. Et cette impression de désarroi ou de solitude ressentie par les Européens aujourd'hui est au moins autant le résultat d'une situation sécuritaire de plus en plus subie que la conséquence d'un retrait stratégique qu'ils ont voulu, qu'ils ont assumé au fond après la guerre froide. Et c'est par cet aspect des choses que je voudrais commencer. Par cette image qu'ils sont passés d'une cage de fer finalement à la cage dorée de leurs illusions. Parce que à la fin de la guerre froide, les Européens ont eu le choix. Ils n'étaient plus prisonniers de l'équilibre de la terreur, les pays à l'est de l'Europe n'étaient plus placés sous le joug soviétique, et les États membres de l'Union européenne redevenaient maîtres de leur destin. Au lendemain de la chute du mur de Berlin, un certain nombre de responsables politiques, et notamment François Mitterrand, avaient d'ailleurs essayé de dessiner quelque chose qui ressemble un peu à ce que dans le livre de Bernard Bourgeois, on voit transparaître l'idée qu'il pourrait y avoir un cœur européen et autour une confédération. Il allait même plus loin puisqu'il envisageait avec Gorbatchev l'idée de la maison commune. Donc on pourrait aussi avoir, à travers des partenariats un peu à géométrie variable, une stabilisation du continent. Ce qu'il y a, c'est que ça impliquait parallèlement au démantèlement du pacte de Varsovie une refonte complète de l'OTAN et surtout une émancipation militaire des Européens. Et la négociation du traité de Maastricht a été un pas décisif dans cette direction, sauf qu'il a été accompagné d'un pas aussi déterminant dans une autre direction qui a été évidemment la préservation de l'OTAN. Et de ce compromis difficile, les choses déclinent quand même, puisque d'une certaine manière, cette ambiguïté du développement de la politique de défense européenne dans l'Union ou dans l'OTAN fait que la plupart des initiatives prises dans l'Union européenne ont été bloquées. On se souvient notamment de la règle fortement rappelée par Madeleine Albright, secrétaire d'État du président Clinton, la fameuse règle des 3D, pas de découplage, pas de duplication, pas de discrimination. Avec ça, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et je dirais que cette volonté d'empêcher l'autonomisation de la défense européenne et en même temps la nécessité de rassurer toute une série de partenaires qui, avec raison, pensent que la défense collective s'assure effectivement dans l'OTAN est sans doute une des raisons qui fait que, à chaque fois, les initiatives ont été bridées. Tout d'abord, en assignant à l'Europe, dans le principe des missions d'opération extérieure et en pratique, celle du bas du spectre. Ensuite, et d'ailleurs il va falloir attendre le concept stratégique de M. Solana en 2003, développé il y a 2 ans par Mme Mogherini au travers de sa stratégie globale, pour qu'à côté des missions humanitaires et des missions du bas du spectre de maintien de la paix, on reconnaisse que cette défense européenne, elle pouvait avoir quand même comme premier principe de protéger mieux les Européens. Sauf que dans les deux cas, ces documents sont plus tournés vers une réponse. C'était après les attentats de 2001 et après les attentats de 2015. Ce sont plus des réponses à la problématique terroriste que des réponses générales quant à la protection de l'Europe. Cette notion reste d'ailleurs d'une consistance vague dans ces deux documents. Donc il ne faut pas chercher très loin les raisons qui font que l'armée autonome de 60 000 hommes définie sur le traité de Saint-Malo soit restée une armée de papier, que jamais l'Union européenne ait pu se doter de capacités de commandement d'un état-major opératif permettant de planifier des interventions d'une certaine envergure. Et quant aux opérations, certaines ont été concluantes. Je pense en particulier à l'opération européenne Atalante contre la piraterie dans le golfe d'Éden ou à l'opération Artemis en Iturie. Mais je dirais aucune d'entre elles n'a valeur de précédent militaire. Et donc, il faut comprendre que les Européens n'ont pas voulu lâcher la proie pour l'ombre. Et d'une certaine manière, avec raison, puisqu'ils ont été pratiquement au début des années 90, confrontés au conflit des Balkans, à la nécessité de régler le conflit bosniaque, puis le conflit du Kosovo en 1999, et que seule l'intervention de l'OTAN était alors appropriée. Les traités sont clairs, et il faut les rappeler, parce que ce n'est pas la peine d'éveiller de fausses querelles. À la fois le traité de l'Atlantique Nord, mais même aujourd'hui le traité de l'Union européenne, dans son article 42.7, précise bien que la défense de l'Union européenne face à une agression armée s'effectue dans et par l'OTAN. Mais, d'une part, nous devons constater que si des interrogations existent, elles viennent plus désormais du côté de notre partenaire américain. Les déclarations du président Trump s'interrogeant lors du sommet de l'OTAN de juillet 2017 sur le caractère automatique ou non de cet article 5 de garantie mutuelle de l'OTAN. Et puis parce que tous les scénarios n'impliquent pas des agressions militaires. Et c'est là où je veux en venir. La défense de l'Europe, elle va se situer dans ce que vous avez évoqué, qui est plutôt la problématique du continuum de sécurité et de défense. Et peut-on laisser, du coup, l'Europe, qui voit quand même la garantie dans l'OTAN se relativiser, j'y reviendrai, se relativiser à cause de notre partenaire européen. Mais on ne peut pas exclure non plus, au regard de l'évolution de sa politique extérieure, que la Turquie, un jour, ne mette pas un veto à l'implication des forces de l'OTAN en Méditerranée orientale, dans les Balkans ou au Levant. Donc l'Europe, elle a devoir faire face à toute une série de crises qui sont à sa périphérie, de conflits à régler, de sécurisation de sa frontière, et avec des agendas diplomatiques et politiques qui ne sont pas les mêmes, évidemment, à Washington, à Bruxelles, à Paris ou à Londres. Donc il y a une nécessité de repenser les choses plus nettement. Et alors que donc la solidarité transatlantique est questionnée, qu'en tout cas la supériorité militaire occidentale, elle n'est plus aussi incontestable, nous nous retrouvons avec la même question que nous n'avons pas voulu trancher au début des années 90. Et si nous n'avons pas voulu la trancher, j'évoquais la cage dorée qui était faite du métal de nos propres illusions, c'est qu'au fond, historiquement, les Européens ont longtemps pensé que leur société était un modèle d'achèvement démocratique et du contrat social, que leur union balisait naturellement une évolution de l'organisation internationale en favorisant d'autres intégrations régionales possibles. Fondés sur le négoce, la négociation, la recherche du compromis, les Européens se sentaient très à l'abri d'un monde qu'ils ne menaçaient pas et qui finalement n'avait pas de raison de les menacer. Et c'était un peu ce sentiment que les Européens étaient, comme le sage hegélien, en train d'attendre le reste d'une humanité attardée dans l'histoire. Les 10 dernières années ont évidemment complètement décollé les esprits de cette fable. Et désormais, les Européens sont les premiers conscients et inquiets de la dégradation de la situation internationale, de la détérioration de leur position en termes de sécurité. Pour autant, sont-ils prêts à revoir le casus federis européen, dont le fondement, à l'origine, est la renonciation même à la puissance militaire ? L'Europe s'est en effet construite, dans la seconde partie du XXe siècle, sur le dépassement de la guerre, dans la conjuration de la puissance et de la repentance de nations belliqueuses. Et si, au départ, de la création des communautés européennes, on a envisagé la possibilité d'une dimension militaire. L'échec de la CED en 1954 est venu décourager toute autre velléité par la suite. Donc il faut avoir, je dirais, conscience. Et pour beaucoup de pays, et notamment les dernières phases d'élargissement de l'Union européenne l'ont montré, la paix de l'Europe, c'est au fond sa capacité à absorber les États, à s'élargir, à neutraliser les passions entre eux. Et je prends une image en disant que quelque part, la notion d'impuissance chez les Européens, c'est une notion sacerdotale, à l'image de ce qu'était le Flamine de Jupiter sous la République romaine, qui était le résidu ou le relief de ce qu'avaient été les rois romains, qui d'ailleurs portaient la toge prétexte, mais qui n'avaient pas le droit de monter à cheval, pas le droit de porter une épée. Donc si personne ne conteste le rôle diplomatique, politique, économique, dans la prévention des crises ou dans la gestion post-conflit de l'Union européenne, en revanche, la question se pose dès lors qu'on a affaire à des situations plus sérieuses. Et là où de nouveau la question se repose, et dans un moment où les Européens, je dirais, sont opérationnellement atteints d'une dépression chronique, après les engagements en Afghanistan, en Irak, en Libye, c'est cette question, mais pourquoi finalement aller rechercher dans l'Union européenne quelque chose auquel on rechigne autant dans l'OTAN que dans les coalitions de circonstances? Et les Français, notamment dans leur intervention au Mali, ont vu combien il avait été difficile de mobiliser, au-delà de collaborations symboliques, leurs partenaires pour les accompagner dans cette opération. Et donc, je pense que si on veut relancer la défense européenne, quelque part, il faut changer le code génétique, il faut changer en profondeur cet ADN. Mais évidemment, ce n'est pas facile. C'est d'ailleurs ce à quoi appelait le discours du président de la République du 27 septembre 2017 à la Sorbonne. Il appelait une forme de refondation. Mais cette refondation, qui implique, je dirais, une unanimité politique très forte, qui implique une transformation en profondeur du modèle, des délégations importantes dans le champ de la sécurité et dans le champ militaire, comment l'entreprendre au moment où notre Union est en crise? Et ce modèle de l'Union européenne, là encore, les pères fondateurs l'avaient conçu dans la dépolitisation, dans la dénationalisation, et ce qui revient évidemment à travers toutes ces crises, que ce soit la crise transatlantique sur l'Irak en 2003, que ce soit la crise sur les institutions en 2005, que ce soit la crise économique et financière en 2008, que ce soit la crise post-terrorisme en 2015, la problématique migratoire qui a suivi immédiatement, que ce soit le Brexit, c'est évidemment qu'il est difficile de transférer de la compétence, surtout dans un champ de la compétence de souveraineté et de la compétence régalienne, sans un accompagnement, sans une intégration, sans des éléments politiques. Et on voit bien que, évidemment, pour la défense, il y a la volonté de se décaler, forcément, et d'aller rechercher, notamment dans des programmes capacitaires, dans des constructions qui sont plus liées à l'industrie de défense, au financement de programmes, une piste qui permette d'évoluer sans toucher à cette question névralgique tellement sensible. Et de fait, comment pourrait-on avoir cette transformation du projet alors que d'autres politiques régaliennes, beaucoup plus évoluées, beaucoup plus adaptées, sont elles-mêmes en difficulté? La problématique de la gestion de la zone euro, même si aujourd'hui, pas à pas, le budget qui se met en place laisse voir qu'on sort peut-être d'un chemin difficile. Mais quand on regarde la gestion de la frontière et la problématique de la gestion du groupe de Schengen, on voit bien combien les Européens vont avoir de la difficulté à trouver la bonne voie. Mais je dirais que s'ils veulent trouver cette voie, il faut peut-être cesser de regarder son nombril, regarder comment tout ça s'est construit. L'Europe, ce n'est pas seulement en fonction de nous-mêmes qu'il faut le faire, mais c'est évidemment en fonction d'un monde, et d'un monde qui ne ressemble absolument pas à ce que nous imaginions il y a seulement 20 ans. Un monde dans lequel les règles du jeu auxquelles nous adhérions n'ont pas le vent en poupe, que ce soit le multilatéralisme ou la régulation. Et donc, les Européens doivent évidemment avoir un regard dessillé sur ce qu'est le monde actuel. Et le monde actuel, est un monde qui, en tout cas pour les Européens, fait que des menaces qui s'étaient éloignées au moment de la guerre froide, très loin à l'horizon, qui semblent affecter d'autres continents, ces menaces se sont rapprochées. Elles sont à notre périphérie. Quand on regarde les principaux conflits qui restent ouverts, la Géorgie, la Libye, Syrie, Sahel, Ukraine, on voit bien qu'on est aux bornes, aux approches, à l'environnement de l'Union européenne. Les tensions de voisinage dans les Balkans et en Méditerranée et avec la Russie ne sont pas apaisées. Quand on regarde au-delà la problématique terroriste, heureusement la situation d'un point de vue militaire est pratiquement réglée en Syrie. Mais évidemment, le terrorisme ne va pas cesser. Ce terrorisme djihadiste va muter. Nous l'avons déjà vu muter plusieurs fois. Donc il faut s'attendre à ce que, internationalement, il se développe autrement et au cœur de nos sociétés. La Chine, par sa puissance commerciale et ses actions de longue main, inquiète. Que ce soit du fait de l'opacité d'une partie de sa politique et surtout de sa non-réciprocité. Peut-on laisser longtemps des investissements stratégiques, des infrastructures critiques être rachetés sans que nous nous inquiétions nous-mêmes sur ce que ça signifie en termes de perte de souveraineté et de sécurité. Et donc faible l'Europe, c'est vrai qu'elle est en proie, je dirais, à tous ceux qui ont intérêt d'une certaine manière à sa division. J'évoquais la Russie qui, au plan politique, souffle sur les braises du populisme, que ce soit à Rome ou à Budapest. J'évoquais la Chine, entretenant des relations bilatérales très déséquilibrées avec un certain nombre de pays pour faire brèche et pénétrer sur certains marchés. Mais même les États-Unis, qui sont un allié considérable, précieux et important dans certains domaines, et notamment dans le domaine militaire, ils sont en concurrence frontale avec nous. Dans ce graphe, d'ailleurs, vous voyez que la destination des exportations américaines en matière d'armement, la première destination à peu près 36 milliards de dollars, c'est l'Europe. Le marché domestique de l'armement est d'abord un marché européen. Les Européens doivent reconquérir aujourd'hui leur marché domestique. Donc cette division, d'une certaine manière, elle nous affaiblit, mais elle est aussi entretenue. Et par rapport même au diagnostic qui était tiré dans la revue stratégique de 2017, la situation s'est dégradée. Elle s'est dégradée notamment par la poursuite du démantèlement de l'architecture européenne de sécurité, par la prolifération, les nouveaux programmes de missiles, qu'ils soient russes ou qu'ils soient iraniens, et l'intensification de la menace cyber. L'architecture européenne de sécurité est en miettes. Je dirais que l'effet le plus majeur a été évidemment l'annexion de la Crimée, les interventions russes depuis la Transnistrie, l'Ossétie, jusqu'au Donbass. Mais au fond, on est étonné, mais la Russie pratique une politique de coup de butoir. Elle fait sentir sa présence physiquement dans ce qu'elle considère cette zone d'influence pour restaurer son empire et son emprise. Elle considère que c'est une zone de glacis. De la même manière, son intervention en Syrie vaut quelque part démonstration de sa capacité militaire. Elle signale là encore une volonté de rétablissement à l'international. Mais contrairement à ce que disait Churchill, vous savez, la politique russe, c'est une devinette entourée d'un mystère et drapée d'une énigme. La politique extérieure russe, elle est limpide. Elle est d'une certaine manière la politique de leurs moyens et surtout la politique de leur absence de moyens. Il ne faut pas se leurrer. La Russie, c'est un PIB équivalent de celui de l'Italie. Donc l'intérêt de la Russie n'est pas d'agresser ou de conquérir militairement, elle est de déstabiliser. Et cette déstabilisation, elle joue sur quoi ? Elle joue sur la fragilité des Européens, sur le fait que tétanisés, ils sont amenés à céder dans ce qui sont des formes de chantage. Mais du coup, là encore, la division s'accroît et ceux qui sentent le plus menacés sont tétanisés, je pense notamment aux États baltes et aux Polonais, et sont évidemment à la recherche d'assurance pour leur propre sécurité. De l'autre côté, l'unilatéralisme américain nous a conduits d'une certaine manière à achever cette déconstruction de l'architecture européenne de sécurité avec la dénonciation simultanée du traité des forces nucléaires intermédiaires en février 2019. Un coup de balai qui a définitivement supprimé tous ces traités, certes de la fin de la guerre froide, mais qui, quelque part, étaient quand même, je dirais, nos garanties juridiques de sécurité. Force conventionnelle en Europe, ABM, ciel ouvert, documents de Vienne. L'OSCE est aujourd'hui une organisation en coma entretenue et dépassée. Et donc, on voit bien qu'il y a un cycle là qui se clôt. Alors, pas sur des choses juridiquement, on peut penser que déjà cette architecture était très mal en point. Sauf que ceux qui retrouvent les mains libres, ce sont évidemment les Russes, qui ne sont désormais astreints à aucune autre forme de discipline et qui vont certainement redévelopper ou continuer à développer, comme ils ont commencé à le faire, des missiles de gamme intermédiaire de 500 à 5500 km. Et pour les Américains, bah, la logique, ça va être sans doute de retrouver le même type de liberté, mais plutôt vers l'Asie, notamment sur leur missile Mersol, mais évidemment de faire payer leur garantie de sécurité face à ce risque de menace d'une course aux armements du côté russe. Et c'est le coût des défenses antimissiles de l'Union européenne. Donc les 2% qui sont agités comme un totem, comme un talisman, c'est d'abord le financement possible d'un réarmement européen dans une course qui est évidemment un piège dans lequel on aurait probablement tort de s'enferrer. Je passe sur les conséquences internationales, qui ne sont pas bonnes non plus pour les Européens qui envisageaient un système des Nations Unies beaucoup plus régulé. Parce que si on ne croit pas, si on croit qu'on peut jeter un traité de désarmement, comment peut-on continuer dans des négociations sur la remise en jeu du traité de Vienne avec les Iraniens ou des négociations avec les Coréens ? Donc ce sont toute une série de nouvelles qui ne sont pas bonnes. Et les dernières, je dirais, alors vous avez évoqué le rôle du SGDSN, Monsieur le Président, dans les questions plus technologiques, mais évidemment, c'est la menace cyber. La menace, c'est désormais une nouvelle dimension des conflits. C'est désormais, toutes ces innovations ont renouvelé en profondeur le type de confrontation interétatique et les engagements militaires. D'abord parce qu'elles les accompagnent. C'est aussi simple, plutôt que de bombarder un centre de DCA ou un aéroport, que de prendre la main informatiquement sur ces systèmes de sécurité. Donc il y a des changements extrêmement profonds. Et si nous ne sommes pas à la hauteur, eh bien évidemment ce sont nos défenses, nos infrastructures critiques, mais même nos sociétés qui sont en risque de crise systémique, comme on les a vues notamment avec les attaques NotPetya ou WannaCry. Et là encore, les Européens, par leur division, ne sont pas à la hauteur, parce qu'évidemment, la muraille cyber de l'Union européenne, elle est complètement hétérogène. Et donc, si vous laissez des brèches, il y a des États qui sont forts. La France est un État cyber fort. Le Royaume-Uni, n'en parlons pas. L'Allemagne nous suit de près, les Pays-Bas. Mais les autres sont souvent dans des situations où ils ne sont pas en mesure. Et donc, tout ce qui est une brèche dans cette muraille nous affecte. Rappelez-vous comment l'entreprise Saint-Gobain a été victime en France d'une contamination qui était passée par l'Ukraine. Et là, nous avons besoin, là encore, de nous unir dans un champ où la coopération ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que dans ces domaines-là, c'est comme pour les services de renseignement, les coopérations se font entre pairs, dans des cercles réservés d'initiés. Donc en réalité, le savoir-faire est conservé, la connaissance est conservée entre les meilleurs, mais elle n'est pas répartie à la base. Et donc, si on veut uniformiser, égaliser nos protections, il faut le faire, évidemment, dans toutes les directions et à l'égard de tous les pays. Je n'évoque pas, mais je vous renvoie à un article d'un commissaire britannique. C'est une façon de saluer la contribution des Britanniques. Il est encore temps à l'Union européenne et qui a été, vous le savez, le commissaire en charge de la sécurité, qui a fait un article tout à fait remarquable dans Le Monde récemment pour souligner que non seulement sur les questions, évidemment, de cyber, il y a une problématique de protection de la société, de défense de sa sécurité, de ses infrastructures critiques, mais il y a une question de souveraineté fondamentale, notamment au travers le déploiement de la 5G, alors que les Européens ne sont pas maîtres ni des savoir-faire, ni des technologies, ni des équipements, ni même des normes qui seront demain imposées par les États-Unis et par la Chine dans une compétition à l'hégémonie qui est évidente aujourd'hui. Y aura-t-il ce sursaut du côté européen ? Et voyez bien que là, et c'est pour ça que je voulais évoquer un peu cette nouvelle frontière technologique, les investissements sont colossaux. On a évoqué le système de combat aérien futur. Ce sont des investissements colossaux. Budget de la France, 35,9 milliards d'euros. Budget de l'Allemagne, 37,5 milliards d'euros. Mais dites-vous bien que 60% sont au moins, évidemment, de cet argent est distribué pour payer des soldes, pour payer de l'infrastructure. Et donc, ce qui est réservé à la recherche en France, 750 millions d'euros, ça relativise. Pour les équipements conventionnels, 4-5 milliards d'euros. Ça relativise aussi. Donc, on revient à la question qui se posait tout à l'heure, évidemment, l'union fait la force et permettrait non seulement d'avoir de dégager les moyens, mais surtout d'avoir la rationalisation de ces moyens. Donc, nous sommes au pied du mur, avec toute une série de projets, comme ceux qui sont explicités sur le graphique, toute une série de projets très intéressants, dans une passe politique extrêmement difficile, et alors que nous n'avons pas encore décidé de définir nos enjeux de sécurité, nos propres enjeux de sécurité, pour l'articuler à une posture stratégique commune. 2019, année de tous les dangers. Je vais vite. Parce qu'au moment où nous devrions passer de la phase d'installation ou d'initiative de ces projets, pour commencer leur début de réalisation par des financements, nous nous retrouvons avec le Brexit, nous nous retrouvons avec des élections européennes qui vont profondément bouleverser les équilibres, et notamment au Parlement. Les sommes que j'évoquais tout à l'heure, elles ont été votées par un Parlement qui sort. Ce qui suppose que le Parlement nouveau, sera plus difficile de définir des majorités entre le PPE, socialiste, un camp centriste progressiste, les nationalistes et les Verts, 5, alors qu'avant on arrivait à dégager des majorités à 2, donc beaucoup plus compliqué. Changement de la Commission. Deuxièmement, ce domaine est un domaine qui cherche encore ses nouvelles modalités de gouvernance. Or, comme je vous l'ai dit, la nouveauté dans cette relance, c'est qu'on a mobilisé des crédits communautaires. C'est formidable. Sauf que toute la défense européenne a été construite dans un pilier, on ne parle plus de pilier, intergouvernemental. Donc nous avons des crédits qui vont être distribués à la majorité, voire à la majorité qualifiée, sur des décisions politiques qui devraient être décidées à l'unanimité. Vous voyez le risque. Et donc, tant que ni le règlement intérieur, pour préciser clairement les choses, ni la gouvernance, y aura-t-il un commissaire à la défense ? Y aura-t-il une direction spécialisée sur l'industrie de défense et le spatial et le cyber ? Alors qu'aujourd'hui, vous imaginez bien, j'ai un grand respect, c'est une très grande commissaire pour la DG Gros, mais la DG Gros, c'est la règle de la concurrence. On vient de voir sur Siemens Alstom. Ce qu'on veut faire là, c'est notamment essayer de reconstituer une industrie autour de champions européens. Si, en réalité, cet argent communautaire sert à encourager des concurrences fratricides en Europe, bon, on aura dilapidé de l'argent. Donc, ces questions sont évidemment sur la table à un moment où, je dirais, il n'y a aucun exécutif stable en Europe. Évidemment, la problématique du Brexit et des lendemains de Madame May, une coalition dans l'expectative en Allemagne, et vous pouvez prendre pratiquement toutes les capitales et vérifier ce que je vous dis. Donc, dans ces moments-là, s'il y a un agenda qui n'est pas premier, l'agenda européen, ben, c'est bien l'agenda européen. Les agendas sont nationaux. On le voit bien aujourd'hui nous-mêmes, occupés, préoccupés par la gestion des crises internes. Et donc, je pense qu'il va falloir, si on ne veut pas compromettre ces projets, ben, trouver l'agenda qui convienne. L'agenda qui permette d'accompagner, ces réformes, de ne pas être forcément trop pressé. Il faut aussi des clarifications qui sont indispensables. J'évoquais déjà la clarification entre l'Union européenne et l'OTAN. Je pense que là, je l'ai déjà dit, ne réveillons pas des fausses querelles. Nous savons bien que le pilier de la défense collective des Européens, c'est l'OTAN. Les dernières déclarations entre le secrétaire général de l'OTAN, le président du Conseil, le président de la Commission en 2016 et 2018, dit très bien quelle est cette articulation. Mais là où je veux en venir, et je le développerai un peu tout à l'heure, c'est que notre préoccupation, elle n'est pas forcément, elle n'est même pas en premier le risque à une agression militaire. Elle est la nécessité de prendre en charge le continuum sécurité-défense qui fait que, oui, il y a des réponses militaires nécessaires parfois, mais dans beaucoup de cas, ce sont des réponses en termes de sécurité. Clarification avec l'Allemagne. L'Allemagne est un allié auquel nous sommes étroitement unis. Symboliquement, le traité d'Aix-la-Chapelle l'a rappelé. L'Allemagne et la France ont été à l'origine de cette relance de 2016-2018. Mais voilà, il faut aussi savoir que les choses sont difficiles, qu'on peut avoir des intérêts divergents, des intentions sur le projet qui, quelquefois, laisse apparaître plus d'un bémol. Lisez l'article de Sigmar Gabriel il y a une dizaine de jours, intitulé « L'amitié franco-allemande ne suffit pas », à la fois pour nous mettre en garde sur un directoire qui ne serait pas apprécié de manière évidente de nos autres partenaires, mais aussi pour, les pailles qui sont quelquefois dans cette relation qu'on a intérêt évidemment à consolider et bien sûr toujours à célébrer. Et puis, il ne serait pas raisonnable, malgré le Brexit, de nous séparer du Royaume-Uni. C'est un acteur essentiel de notre sécurité. La France, à travers les acteurs de Lancaster House, parce que nous avons avec ce pays des accords industriels nombreux, parce que nous avons avec ce pays une culture opérationnelle forte, parce que nous sommes aussi puissance de la dissuasion l'un et l'autre. Donc ça, je pense que il faut avoir une préoccupation sur le moment politique, une préoccupation sur nos alliés, et ensuite il faut articuler dans des axes qui sont compréhensibles. Le premier axe, j'y reviens pas, c'est la menace militaire, c'est l'OTAN. Le deuxième axe, c'est évidemment tout ce qui touche à ce continuum de défense et de sécurité qui doit revenir, que les Européens doivent s'approprier. Et s'approprier ce domaine, c'est, je l'ai dit, bien sûr, réfléchir à la problématique de la protection de nos infrastructures, de la cybersécurité, de la lutte contre le terrorisme, les problématiques de piraterie, la gestion de nos frontières face aux flux migratoires. Mais il ne faut pas refuser de voir que nous risquons de faire face à des crises dans notre périphérie qui peuvent nécessiter, même si ce ne sont pas des conflits de nature militaire, ce sont des crises qui peuvent impliquer les moyens militaires pour y faire face, pour éviter la contagion de troubles, pour éviter le rebond de la violence chez nous. Et donc là, il y a besoin d'avoir une meilleure coordination entre les moyens civils et les capacités militaires, de faire pas simplement un inventaire des capacités, mais d'en faire une évaluation quant à leur cohérence opérative. Évidemment, tout cela n'est pas fait et l'Union européenne reste toujours aussi mal préparée pour affronter une crise majeure de sécurité sur son territoire ou à sa périphérie. Le dernier point, le dernier axe, il est évidemment dans le fait que nous devons travailler à améliorer notre appréhension des choses et notamment notre évaluation avant même d'envisager les manières de conduire les opérations. Et là encore, il y a une nécessité d'investir intellectuellement, conceptuellement, des documents de doctrine, de la planification capacitaire, et c'est un défaut. Et c'est seulement à partir de là que les projets qui sont aujourd'hui en couveuse ont des chances d'aller à bon aboutissement. Ces projets, pour les mettre en œuvre, régler, je l'ai dit, le problème de gouvernance et de règlement intérieur, réarticuler et faire converger des institutions qui sont pour les unes intergouvernementales, pour les autres communautaires, comme l'Agence européenne de défense, comme le FEDEF pour le communautaire, ou qui sont de simples coopérations entre États, comme l'OCCAR. Aujourd'hui, vous prenez un programme d'armement. Normalement, la qualification du besoin doit être faite par l'Agence européenne de défense. La sélection dans les appels d'offres doit être faite par le Fonds européen de défense. Et la maîtrise déléguée est donnée à l'OCCAR. Donc vous avez trois intervenants là où évidemment on comprend bien qu'il y a une nécessité, sinon d'intégration, tout au moins d'une convergence suffisante technologique pour que les choses ne déraillent pas. Donc ça c'est un aspect très important des choses. Le dernier aspect, il est évidemment celui de la nécessité de devoir un jour conduire de manière plus cohérente des opérations. Ce qui implique qu'aujourd'hui nous avons des briques. Mais nous n'avons pas le cœur du système. Nous n'avons pas cet état-major opératif qui permet de planifier une action intégralement si nous le souhaitons. Donc nous avons un état-major de l'Union européenne, mais qui est un état-major d'éclairage stratégique. Nous avons au niveau tactique des corps européens, ils sont d'ailleurs nombreux, presque trop nombreux quand on leur a utilité pour l'instant. Et en réalité, ces états-majors d'instances tactiques sont incapables d'assembler une opération qui implique une action interarmée, qui implique une planification, qui implique une conduite multinationale. Alors, il faut avoir cette possibilité parce que si on ne l'a pas, nous sommes obligés de nous reposer sur deux possibilités. L'une, qui est que nous sommes absolument certains que nous aurons à disposition les moyens de l'OTAN. Or, j'évoquais le cas où les Américains pourraient considérer « Écoutez, la Libye, c'est vous. Les Balkans, c'est vous. J'ai évoqué le cas du veto turc. Ou alors ça repose sur une nation cadre, c'est-à-dire ce que fait la France au Mali, où elle propose aux autres de s'associer. Mais là encore, il y a des scénarios, surtout si ce ne sont pas des scénarios, ce sont des scénarios qui impliquent la mobilisation de moyens militaires, mais qui ont surtout des finalités politiques, où vous avez besoin d'avoir les 27 à bord. C'est important que la conduite soit un pilotage collectif. Pourquoi ? Parce que l'issue de la crise, elle ne va pas être militaire. L'action militaire va être de préparer cette solution. Et pour avoir cette solution, bah, il faut avoir les 27. Et donc, il ne faudrait pas qu'on ait cet angle mort. J'en viens donc à ma conclusion. Bah, l'équation de sécurité européenne est devenue un polynôme désormais à trop d'inconnus. Démantèlement des accords conclus à la fin de la guerre froide, amoindrissement de la garantie américaine, multiplication des provocations russes, une division d'intérêts stratégiques entre les deux Européens, entre les Européens, entre ceux qu'on peut comprendre à l'Est, qui sont essentiellement préoccupés par la résurgence de la menace russe, et ceux qui, plus au Sud, sont préoccupés par tous les troubles, les violences qui peuvent se produire en Méditerranée. Et je pense que, évidemment, c'est cette réconciliation qu'il faut obtenir, sans doute en ayant des affichages qui soient à portée de ce qu'on peut faire, trop d'ambition quelquefois effraie. Il ne faut pas non plus être dans le pas à pas, parce que souvent le pas à pas, c'est le piétinement. Donc il faut avoir des objectifs intermédiaires suffisamment crédibles et forts pour qu'on évite la lassitude, comme ça a été le cas par le passé, donc en ménageant des étapes qui permettent, sur des positions intermédiaires, d'aller, et sur des résultats tangibles, d'aller vers les orientations que j'indiquais de façon plus graduelle. Une chose est sûre. Jamais la nécessité d'une défense européenne n'a été si impérieuse. Jamais les forces contraires qui s'expriment aujourd'hui à Washington, mais c'est peut-être simplement le fait de l'administration Trump, à Moscou, en passant par Rome, par Varsovie, sont quelque part, je ne vais pas dire ligués, parce que c'est un faisceau de circonstances, mais qui viennent généralement, pour des raisons diverses, la freiner. Jamais sur cette question, la France, qui souvent a fait course en tête, mais était aussi peu assurée de la solidarité de ses équipiers traditionnels sur la ligne d'arrivée et de sa position sur cette ligne d'arrivée. Je vous remercie.